Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être là malgré la chaleur. On a dû couper la clim là, juste à l'instant pour éviter un bruit sourd que vous entendiez peut-être. Donc là, on est bien. J'espère que ça va tenir. Merci beaucoup à vous d'être venus, puis à Fabrice Ricciaputi d'être venu de Besançon en train. C'est un peu long. Voilà, il va faire un mini tour de France en 3 jours. Bon, pour accompagner la réédition finalement de ce livre qui est sorti il y a quelques semaines aux éditions Le Passage à clandestin, quelques mois même, Le Pen et la Torture, sous-titré Alger 1957, l'histoire contre l'oubli. Et donc je laisserai le soin à Bernard Bessac de l'association 4ACG, donc l'association des anciens appelés de la guerre d'Algérie et leurs amis. Et le CG contre la guerre. Voilà. Donc, on l'organise avec l'association 4CG. Et Fabrice vient pour la deuxième fois ici, puisqu'il était venu présenter ici en Noya les Algériens, il y a quelques années déjà. Et ça, donc, ça sort en poche en septembre. Merci beaucoup. Bernard, je te laisse introduire le travail de Fabrice. Merci beaucoup, bonne soirée.
Fabrice Ricciaputi, ce que je peux signaler aussi, c'est qu'il a écrit plusieurs bouquins. Il y a ici en Noyé les Algériens sur le massacre des Algériens à Paris par la police de Maurice Papon en octobre 61. Le Pen, bon, donc Le Pen et la torture maintenant. Et puis la bataille des Nodis, en référence à un travail d'un historien qui n'était pas vraiment un historien, mais qui a fait un travail gigantesque sur justement le 17 octobre 61. Donc voilà. Fabrice Ricciaputi participe aussi, c'est un des animateurs du site 1000autres.org qui travaille pour rechercher les biographies, retrouver les biographies des nombreux, très nombreux, disparu pendant la guerre d'Algérie, notamment aussi bien en Algérie qu'en métropole. Tu me dis si je raconte des conneries. Donc voilà. Vous pouvez trouver tout ce travail sur Internet, 1000autres.org. Voilà, c'est le site. Donc voilà. Donc on va vous entretenir de la torture. La torture, si je vois. Donc voilà. Alors, la torture pendant la guerre d'Algérie. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. Et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Donc, je fais une citation d'Aimé Césaire, un texte qu'il a écrit en 1950, Discours sur le colonialisme. Aimé Césaire, qui était un anticolonial de premier plan. Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviviser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé qu'en France on accepte, une fillette violée qu'en France on accepte, un malgache supplié qu'en France on accepte, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés entre guillemets, dans tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe, le progrès lent mais sûre de l'ensauvagement du continent. C'est un peu là où nous en sommes actuellement aujourd'hui. Donc, par rapport à la torture, il semblerait que l'être humain soit l'unique animal qui pratique la torture. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres, mais moi je n'en connais pas. Celle-ci, la torture, a été utilisée dans la plupart des civilisations à toutes les époques de l'histoire, notamment dans de multiples contextes de conflits. Depuis la conquête coloniale, la torture est un procédé courant des « forces de l'ordre », entre guillemets, servant à terroriser les populations colonisées. On pourra d'ailleurs s'interroger sur l'usage du mot « terrorisme », terroriste, dans le contexte du colonialisme, en se posant la question « qui terrorise qui ?». Voilà. Alors maintenant, on va rentrer plus précisément dans la guerre d'Algérie. Quelques trois dates repères qui sont importantes. Avril 1955, création de l'état d'urgence dans le droit français, qui n'existait pas avant. L'état d'urgence qu'on connaît récemment, qu'on connaît en Nouvelle-Calédonie, qu'on a connu pendant le Covid, etc. Cet état d'urgence, on le doit à la guerre d'Algérie. Certains états d'urgence, certaines prérogatives du pouvoir judiciaire attribuées au pouvoir administratif, par exemple les privations arbitraires de liberté, les assignations à résidence, la fermeture de certains lieux, l'interdiction de manifester et les perquisitions administratives. La torture est un des piliers de la notion de guerre révolutionnaire théorisée en 1954 par le colonel Lacheroy, qui avait pris la pâtée au Vietnam, donc qui voulait essayer de comprendre comment ça s'était passé, et enseigné à partir de 1955 cette théorie dans toutes les autres institutions militaires françaises. Donc on voit l'État français qui s'introduit dans le mécanisme. Mars 1956, ce qu'on appelle les pouvoirs spéciaux, attribution à l'armée des pouvoirs de police, suspension des libertés individuelles, généralisation du recours à la justice militaire. Et le 8 janvier 1957, mise en application du décret sur les pouvoirs spéciaux du gouvernement Guy-Mollet par Robert Lacoste, mise en place des dispositifs opérationnels de protection, ça s'appelle les DOP, qui étaient des centres de torture dont l'usage est couvert par les gouvernements successifs. Donc l'État français est mouillé en plein. C'est là que Le Pen, Bijard et d'autres pratiquent la torture à Alger, et c'est là que je passe la parole à Fabrice.
Merci. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Il faudra que tout à l'heure que tu présentes un peu plus ce qu'est cette remarquable association qui est la 4ACG. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous n'allez pas trop mal. Vous savez, pendant l'épidémie de Covid, on a pris l'habitude d'écrire aux gens « j'espère que ça va bien » ou je sais pas quoi. Alors là, il nous arrive quelque chose d'un tout autre ordre. Je dis ça parce que moi, ça va pas très bien. Voilà, on vit un moment monstrueux, hein, où le pénisme dont on va parler des racines colonialistes connaît un véritable triomphe et pourrait se trouver... Quand j'ai écrit le bouquin, j'ai écrit que le pénisme était aux portes du pouvoir. Je ne pensais pas que quelques mois plus tard, ce serait tellement possible, quoi. Hein, voilà, bon. Et donc, le contexte est quand même très particulier. Alors, j'ai donc écrit un livre qui s'appelle « Le Pen et la torture, Alger 1957, l'histoire contre l'oubli », qui est d'ailleurs édité en France par le Passage des clandestins avec Mediapart, et en Algérie, j'en suis très content, par les éditions Barzac. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Jusque-là, aucun historien n'avait jugé utile et nécessaire de se pencher sur cette histoire qui, en elle-même, le séjour de Jean-Marie Le Pen en Algérie pendant 3 mois, ne change strictement rien à l'historiographie de la guerre d'indépendance algérienne. Hein, voilà. Le Pen, il n'a absolument pas influé sur les événements. Et donc, voilà, ça n'est qu'un tortionnaire parmi beaucoup d'autres. Et donc, voilà. Et donc évidemment, si on s'est intéressé à son séjour à Alger, c'est bien évidemment parce qu'il est devenu, dans les années 80, un personnage politique de premier plan et qu'il a ensuite connu l'ascension qu'on sait et qu'il a influé, comme on le sait, sur la vie politique française. Bon. Alors moi, je suis, comme un certain nombre d'entre vous, d'une génération qui, dans les années 80, puis dans les années 2000, a suivi dans la presse les révélations, les enquêtes, les témoignages publiés, notamment dans Libération et le Canard enchaîné dans les années 80, puis dans le journal Le Monde dans les années 2000, qui ont révélé, documenté le fait que Jean-Marie Le Pen avait torturé à Alger en 1957. Et donc pour moi, comme pour beaucoup, hein, c'était depuis longtemps une affaire entendue, sur laquelle il n'était pas nécessaire de revenir, en tout cas en écrivant un livre, hein, même s'il est toujours évidemment très important de le rappeler. Et puis, alors voilà, mon livre, il a une origine extrêmement précise, c'est rare. Un jour de mars 2023, j'ai entendu sur France Inter, enfin, là j'enjolive un peu parce que c'est François Gès qui m'a téléphoné pour me raconter, je l'ai pas entendu en direct. Dans une émission assez sérieuse produite par Philippe Collin en présence de Benjamin Stora, il a été affirmé que Jean-Marie Le Pen n'avait sans doute pas torturé à Alger. Alors on a été un certain nombre à protester, notamment sur les réseaux sociaux, dans la presse, et puis Philippe Collin a continué à s'enfoncer davantage en affirmant qu'il n'y avait pas de preuves. Je reviendrai sur ce que ça veut dire que de dire qu'il n'y a pas de preuves. France Inter a fait une note en bas de son site internet sans évidemment modifier en quoi que ce soit l'enregistrement. Et cette émission a été entendue par des centaines de milliers d'auditeurs. Hein. Alors là, je me suis dit, mais nom de Dieu, comment c'est possible ? Et j'ai réalisé quelque chose d'évident, c'est que cette affaire-là s'est arrivée après 20 ans après les dernières révélations concernant le passé tortionnaire de Le Pen, et les 20 années en question sont celles de la fameuse dédiabolisation du Front National. Hein. Et là, je me suis dit, ben voilà, un symptôme de plus de son achèvement complet, c'est qu'on en vient à effacer quelque chose qui était considéré quand même par beaucoup comme étant un fait établi. Alors, j'ai donc décidé de reprendre le dossier. Ce qui m'a autorisé à le faire, c'est que moi, je suis donc par ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, avec l'historienne Malik Haral, on mène un projet historiographique, donc on appelle le projet Mille Autres, je suis un spécialiste de cette séquence historique que tout le monde croit connaître, dont tout le monde a entendu parler, qu'on appelle, de façon extrêmement impropre, la bataille d'Alger. Voilà. Donc, alors, ce que j'ai fait, c'est pas un pamphlet, hein, c'est un livre d'historien qui prend le corpus de sources dont on dispose. Alors, c'est pas moi qui les ai découvertes, ces sources. Hein, elles l'ont été par Pierre Vidal-Naquet ou Paul Tedjen pendant la guerre, puis par Lionel Duroy dans Libération, puis par Florence Bauger pour Le Monde. Voilà. Hein, Le Pen lui-même a contribué à documenter les faits. Bon, j'y reviendrai. Voilà. Mais j'ai confronté toutes ces sources à ce qu'on sait sur le contexte précis de l'opération militaro-policière qu'on appelle Bataille d'Alger en 1957. Voilà. Alors, c'est l'affirmation de Philippe Collin qui dit « on n'a pas de preuves ». Elle est particulièrement intéressante. En fait, il joue avec la notion de preuve en histoire. Hein ? Alors, s'il veut dire que Jean-Marie Le Pen n'a pas fait de selfie en actionnant la GIGN à Alger, c'est sûr. Hein, on n'a pas ce type de preuves-là. Hein, mais on a les preuves dont disposent les historiens, dans tous les cas, dans toutes les situations de la recherche historique. On a des archives, on a des témoignages. On a les déclarations de l'intéressé, on a un contexte, etc. Et donc, il y a effectivement, au sens historique du terme, les preuves que Jean-Marie Le Pen a torturé. Alors, je vais peut-être raconter quand même un petit peu son histoire. Donc Jean-Marie Le Pen, dans les années 50, c'est un jeune militant ultranationaliste, anticommuniste, enragé, qui décide d'abord d'aller combattre les Rouges en Indochine. Hein. Il est, grâce à un piston, il peut entrer dans l'école d'officier de Saint-Mexant, dont il sort avec le grade de sous-lieutenant, ce qui n'est pas très glorieux. Il y a de nombreux témoignages selon lesquels il a bien saoulé ses camarades et ses enseignants avec ses théories et ses logorées interminables. Il a même, par exemple, fait un esclandre extraordinaire parce que, d'après lui, l'armée projetait des films communistes aux élèves officiers. Bon, alors, je ne sais plus de quel film il s'agissait. Enfin, bon, voilà. Bref, il part en Indochine pendant une année, mais il arrive en Indochine après Dien Bien Phu. Hein, l'armée française a pris beaucoup de temps avant d'évacuer complètement l'Indochine. Donc il est arrivé après la bataille, en quelque sorte. Hein, Dien Bien Phu, vous savez, c'est la défaite, la victoire des colonisés vietnamiens sur l'armée française. Bon, on ne sait pas très bien ce qu'il fait en Indochine. Hein. Alors, il ne faut pas compter sur lui pour avoir le détail. Il a écrit ses mémoires, mais il y a un chapitre sur l'Indochine. Alors, ce sont des banalités, des généralités, des choses. Mais ce qu'il faisait exactement, on ne le sait pas. Et ce n'est pas dans les journaux de marche des régiments qu'on va trouver les informations, puisque dans ces journaux de marche, on ne notait que les opérations légales. Hein. Bon, voilà. Alors, moi, je pense que c'est en Indochine, hein, on peut en faire raisonnablement l'hypothèse, que Jean-Marie Le Pen s'est familiarisé avec ces méthodes de ce que les militaires commencent à inventer en Indochine parce qu'ils sont face à une organisation clandestine qui est comme dans un poisson dans l'eau, dans le peuple colonisé et auquel donc ils ne peuvent pas faire la guerre avec des moyens conventionnels. Ils appellent cette façon de faire, ils inventent une doctrine qu'ils appellent la doctrine de la guerre révolutionnaire. En réalité, ça veut dire la guerre contre-insurrectionnelle, quoi, contre-révolutionnaire. Hein. Et comme tu l'as dit, l'interrogatoire sous la torture fait partie de ce qui est déjà expérimenté, alors ça c'est sûr, hein, par les militaires français en Indochine. C'est par exemple en Indochine que se généralise déjà l'utilisation de la torture moderne à l'électricité, hein, la fameuse GGN. L'écrivain Jules Roy, par exemple, raconte qu'il il a quitté l'armée, écœuré d'avoir vu des petites filles torturées à l'électricité quelque part en Indochine. Bon. Ensuite, Le Pen rentre et là, il est élu député du 5e arrondissement de Paris dans le mouvement, dans la vague poujadiste qui se produit à ce moment-là, menée par Robert Poujade, un truc un peu d'extrême droite. Il n'est pas spécialement Le Pen poujadiste, hein, mais il se fait élire quand même dans cette vague. Et là, pour démontrer... Alors là, la guerre d'indépendance algérienne a commencé. Hein, pour démontrer qu'il ne se paye pas de mots, lui, hein, comme ses collègues députés, avec un certain nombre de ses camarades, hein, qui sont des fascistes comme lui, il décide de s'engager. Donc il signe un contrat... Il se met en congé de l'Assemblée nationale et il signe un contrat avec le premier régiment étranger parachutiste, qui est un régiment de la Légion étrangère, dans lequel il y a un très grand nombre de gens qui ont une nationalité qui n'est pas la nationalité française, et notamment beaucoup d'Allemands. On en parlera. Voilà. Et là, il est promu automatiquement, hein, parce qu'il s'est réengagé, au grade de lieutenant. Et donc, il arrive à Alger... à la fin décembre 1956, au moment où se décide, où le gouvernement de Guy Mollet, du socialiste Guy Mollet, dans lequel se trouve notamment François Mitterrand, à ce moment-là ministre de la Justice, et Robert Lacoste, ministre résident de l'Algérie, c'est le moment où ce gouvernement décide de militariser, c'est une décision extrêmement grave et lourde de conséquences, il décide... Dans une situation à Alger qui devient explosive à la fois parce que le FLN a décidé de porter la lutte dans les zones urbaines, mais aussi parce que les ultra-européens provoquent des émeutes et accusent Lacoste et Mollet d'être laxistes et voilà, et réclament l'armée au pouvoir. Hein. C'est vraiment, bon, je ne peux pas développer ici, mais c'est vraiment un moment très très chaud pour le pouvoir colonial. Et donc là, Robert Lacoste, en accord avec Guy Mollet, décide de donner ce qu'ils appellent les pouvoirs de police en vertu donc de la loi sur les pouvoirs spéciaux de 1956, c'est-à-dire d'attribuer donc le maintien de l'ordre dans une agglomération de 800 000 habitants, pas dans les campagnes, pas dans les montagnes, d'attribuer donc le maintien de l'ordre à l'armée, au général Massu, qui commande la 10e division parachutiste. Et donc, c'est comme ça que commence ce qu'on va bientôt appeler, en fait, à ce moment-là, on ne l'appelle pas vraiment comme ça, mais la bataille d'Alger. Et en fait, le premier boulot des militaires, ils le disent tous, mais ils passent assez vite là-dessus, il permet de bien comprendre à quoi on a affaire avec cette opération militaro-policière. Parce que leur premier boulot, c'est d'empêcher à tout prix la réussite d'une grève générale d'une durée exceptionnelle qui a été appelée au mois de décembre par le FLN dans toutes les villes d'Algérie et dans l'émigration en France. C'est la grève qu'on appelle la grève des 8 jours. Et vous savez, dans les enquêtes que je mène avec Malik Haral auprès des témoins, des familles de disparus, etc., là, personne ne parle de bataille d'Alger chez les Algériens. Chez certains dirigeants qui ont écrit des livres, ils parlent de la bataille d'Alger. Mais le repère temporel, c'est 57, c'est la terreur, et c'est aussi l'année de la grève pour les Algérois. C'est l'année de la grève. À la fois l'année où ils ont vécu une expérience extrêmement intense de mobilisation collective, de solidarité très forte face à la puissance française, et le moment aussi de sa répression qui a été accomplie avec une violence absolument sans précédent. Voilà. Donc Jean-Marie Le Pen, quand il arrive à Alger, il est immédiatement enrôlé. Donc, alors, faut dire que les gens qui dirigent le premier REP, le premier régiment étranger parachutiste, n'ont pas dû trop savoir quoi foutre de ce type, qui était déjà bien connu pour être très indiscipliné, une grande gueule, pour ses abus, ses excès, notamment de boissons. Les esclandres qu'il commettait, etc. Il n'était pas du tout il n'avait pas le profil du régiment d'élite, entre guillemets, des paras. Bon. Alors, là encore, ce n'est pas la peine de lire les mémoires de Jean-Marie Le Pen là-dessus pour apprendre quoi que ce soit de précis. Et donc, il faut faire autrement. Bon. Alors, il a dit de très nombreuses fois, j'étais officier de renseignement. Mais il a aussi dit le contraire. Dans un film, notamment, que vous pouvez voir sur Internet, il est en accès libre, le réalisateur, dont le nom m'échappe, le pousse un peu dans ses retranchements, et face à la caméra, il dit « Mais enfin, j'étais pas officier de renseignement. » Pourquoi il dit ça ? Pourquoi parce qu'il était là, mis en face de ses accusateurs algériens qui l'accusaient de les avoir torturés. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à dire qu'il n'était pas officier de renseignement ? C'est parce que tout le monde sait très bien, les travaux de Raphaël Branche, par exemple, sur la torture, l'ont bien montré, que l'officier de renseignement, c'est vraiment celui qui dirige les interrogatoires sous la torture. C'est son rayon. D'accord ? Et donc, quand on a été officier de renseignement à ce moment-là, l'étonnant, c'est l'exception, c'est qu'on ne torture pas. Et donc, ce qui aurait été étonnant, c'est que Jean-Marie Le Pen n'est pas torturé. Donc ici, on n'est pas... Alors, j'insiste là-dessus. Que Jean-Marie Le Pen soit un infâme salopard, c'est une chose, mais peu importe. Ici, on est dans un système qui a été institué. Pierre Vidal-Naquet disait « La torture, c'est une institution clandestine ». C'est un système qui a été institué à l'intérieur de ce que Malik Haral et moi appelons le système de la disparition forcée. Les soi-disant pouvoirs de police qu'on donne à l'armée à ce moment-là, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est pas du tout les pouvoirs de police parce qu'ils sont absolument affranchis de toute contrainte légale. Ils négocient pendant quelques heures avec le pouvoir politique qui leur lâche tout. Le droit d'enlever les gens chez eux, dans la rue, au travail. Le droit de les embarquer sans dire à leur famille, par exemple, pourquoi on les prend, où on les emmène. Le droit de les détenir clandestinement pour les interroger, c'est-à-dire sans aucun témoin, sans aucun recours, et le droit de les enfermer sans jugement et parfois pour des années. Voilà, c'est ça le système qui est institué. Et ce qu'ont vécu les Algérois dont nous recueillons avec Malika dans le projet Mille Autres les témoignages, ce qu'ils ont vécu, c'est vraiment des vagues d'enlèvement qui se produisent généralement la nuit. Hein, c'est volontaire, parce que c'est une répression qui doit absolument rester clandestine. On n'est pas dans le Djebel, on n'est pas dans les villages de Kabylie, on est dans la ville vitrine de l'Algérie française, où il y a des journalistes, des diplomates, des Européens qui font la moitié de la population. Hein. Il y a des témoins, donc on ne peut pas faire la guerre comme on l'a fait dans les campagnes. Et donc on met au point ce mode opératoire de la disparition forcée. Et c'est une recommandation de Salan et de Massu à ces hommes. Ils leur disent « sortez la nuit hein ». Et toutes les affaires dont Le Pen est accusé, elles se déroulent la nuit. Hein la nuit, on sillonne une ville qui est sous couvre-feu, d'accord, avec des véhicules de toutes sortes, militaires ou civils, et on mène des raids comme ça, un interrogatoire sous la torture en entraînant un autre, hein, quand on a obtenu un renseignement, on déboule dans une maison pour retrouver quelqu'un qui n'y est pas, alors c'est ce que fait Jean-Marie Le Pen. Je vais vous en raconter un cas de ce dont il est accusé. Alors on torture, y compris à domicile, hein, les gens dont on veut qu'ils disent où est celui qu'on cherche. Alors par exemple, dans la nuit du 2 au 3 mars 1957, Le Pen et sa petite escouade de parachutistes, il devait diriger une petite vingtaine, c'était une section, c'est au maximum 20 bons hommes. Ils déboulent comme ils le font, alors pas seulement eux, hein, je répète, mais comme c'est fait systématiquement, avec une violence, une brutalité ostensible, parce qu'il s'agit de faire peur. Hein. Ce système, il sert à terroriser la population dite musulmane pour la dissuader de soutenir le FLN. Il faut qu'ils sachent ce qui les attend hein, s'ils soutiennent le FLN. Et, ou s'ils ne dénoncent pas. Et donc, on fait irruption dans les maisons en entrant par les terrasses, par les fenêtres, en défonçant la porte. On brutalise les habitants de la maison, on distribue les baffes, on casse tout, parfois on pille. Hein. Il y a de très nombreux témoins qui racontent qu'ils ont été détroussés par les militaires. Et puis, on demande à ceux sur lesquels on tombe, où est Ali Bariz ? Jean-Marie Le Pen, il cherche un dénommé Ali Bariz. C'est dans la famille des Moulets, dans la Casbah. On ne lui répond pas et il est accompagné d'un homme cagoulé. C'était très souvent le cas. Les Algériens ont un nom pour ça, c'est l'homme à la cagoule, qui accompagnait très souvent les militaires et qui était chargé de désigner ceux qui devaient être emmenés. Lui-même, souvent, avait été torturé. Hein. Et là, ils se saisissent de quelqu'un qui ressemble à Ali Bariz dans la maison. Ils l'embarquent et ils reviennent le lendemain en s'étant aperçus de leur erreur. Ali Bariz est ensanglanté. Et Le Pen se met à torturer Ahmed Moulay devant sa famille, hein, à l'eau. Alors les méthodes qu'on utilise à ce moment-là, ce sont des méthodes qui sont enseignées quelques mois plus tard au centre Jeanne d'Arc à Philippeville sous la direction de Marcel Bijard. Hein, qui sera plus tard ministre de Valéry Giscard d'Estaing. On y enseigne que... Alors, à ce moment-là, déjà en métropole, c'est compliqué, parce que déjà à ce moment-là, en métropole, les militaires sont accusés de faire comme les nazis. Vous savez, à cette époque-là, le souvenir de l'occupation de la Gestapo, il est encore très frais. Et des gens de droite, y compris des Mauriac et des gens comme ça, disent « Mais on se comporte comme les nazis. Hein, on fait comme les nazis. » Alors, c'est une accusation extrêmement infamante dont les militaires se défendent et ils inventent toute une théorie que Le Pen va beaucoup répéter, selon laquelle ils pratiquent, eux, une torture à la française, une torture humaine. Hein, le mot est écrit, hein, c'est une torture humaine. Alors, en quoi elle consiste, la torture humaine ? Elle consiste à ne pas être sadique, il ne faut pas s'acharner, il ne faut pas le faire en présence de jeunes appelés qui pourraient être un peu troublés. Il faut arrêter quand le type a parlé et il ne faut pas faire couler trop de sang. Quoi. En gros, l'idée, c'est ça. Les nazis faisaient couler du sang, nous, on ne fait pas couler du sang. Donc, on utilise deux techniques prioritairement qui sont recommandées. Hein. Il y a des sources que je cite dans mon bouquin. La torture à l'eau, donc le simulacre de la simulation de noyade. Hein. Alors, soit par la version simple, c'est on met la tête de quelqu'un dans une baignoire, vous avez tous déjà vu ça à la télévision, où on lui met un linge sur le visage et on fait rentrer de l'eau, et ensuite on s'assied sur son ventre pour lui faire cracher, etc. Et puis l'autre technique qui est recommandée, c'est la gégène. Hein, la gégène dont Massu a osé dire, ben moi je l'ai fait essayer sur moi, ça fait pas très mal. Hein, ça fait pas très mal. Voilà. Et donc voilà ce que fait Le Pen dans tous les cas qui ont été racontés. Il a fait aussi vraisemblablement Florence Baugé. Je n'ai pas eu de source pour en parler, mais très vraisemblablement aussi le supplice de la bouteille. Là, on parle du viol. Le viol à la bouteille, bon, il y a eu des tas d'autres méthodes de torture qui ont été employées, hein, évidemment. Bon. Alors, j'en reviens à la famille Moulay. Donc, Ahmed Moulay ne sait pas où est Ali Bariz, ou ne veut pas le dire, ou ne peut pas le dire. Et donc, on l'emmène dans son atelier d'électricien, puisqu'il se trouve qu'il est électricien, qui se trouve juste à côté de sa maison dans la Casbah. Et quand on l'emmène, les gens de la maison entendent un para qui dit « Chef, il a crevé ». Et oui, parce que même avec la torture à la française, le cœur peut lâcher, hein, et on peut en mourir, bien sûr. Bon. Et là, on entend une rafale de mitraillettes, donc qui a été tirée dans le cadavre d'Ahmed Moulay. Et quand le lendemain, l'épouse d'Ahmed Moulay ira au commissariat pour demander des comptes, comme le faisaient quand même assez souvent les Algérois musulmans, hein, on lui dira « Madame, votre mari a été victime d'un règlement de compte entre Felaga », hein, ce qui était une des explications totalement invérifiables aux morts suspectes. Ça, c'est une explication qu'on pouvait donner quand on avait retrouvé le cadavre. Hein. Dans des tas d'autres cas, le cadavre avait été détruit ou dissimulé par les militaires, et là, il fallait inventer autre chose, et en général, c'était « on l'a libéré ». C'était parfaitement vérifiable. Alors moi, je vois ça dans les sources, hein, dans les archives coloniales. Hein. C'est des réponses qu'on fait aux familles. Quand on veut bien leur répondre quelque chose sur ce qu'est devenu leur disparu, on leur dit très souvent « il a été libéré à telle date ». Et il faut savoir que Paulo Sarès, vous savez, ce militaire qui, lui, est dirigé de véritables escadrons de la mort, avec lequel, d'ailleurs, Le Pen est mis en relation par un des témoins, il dit « j'ai fait faire un fichier par mes subordonnés et je leur ai dit dans le fichier de mettre un L comme libéré à ceux qu'on avait tués, et un E comme élargi à ceux qu'on avait libérés. Et moi, je me suis retrouvé en face d'un fichier que j'ai trouvé à Aix-en-Provence, avec des milliers de noms, comme ça, en face desquels il y a des L, des E. Bon, mais de toute façon, aujourd'hui, enfin, on ne peut plus. C'est totalement invérifiable, sauf par les familles, quand on arrive à les toucher. C'est ce qu'on fait avec le projet Milo. Je vous engage à aller regarder le site internet. Bref. Alors, voilà un exemple. Alors, il y a au total une quinzaine d'Algériens qui ont témoigné de façon extrêmement circonstanciée, hein, en donnant beaucoup de détails, en décrivant des lieux, des dates qui collent avec ce qu'on sait. Par exemple, un petit détail pour vous montrer comment on fait pour vérifier. Bien sûr, les témoignages, on ne peut pas les prendre comme du bon pain sans les passer à la critique, hein. Il se trouve que Jean-Marie Le Pen a quitté Alger pendant 15 jours au mois de janvier parce qu'il y avait une campagne électorale imprévue, une partielle. Personne ne le sait, ça. Hein, personne ne le sait. Surtout pas les Algériens. Il faisait ce qu'il voulait. Hein, il prenait des permissions comme il voulait, etc. C'était pas un soldat comme les autres du tout. Or, aucun des témoins ne situe son histoire pendant cette quinzaine-là. En revanche, ça commence dès son retour à la fin février, début mars. Hein, voilà, début février, pardon, plutôt. Ces témoins, ils ont témoigné pendant 20 ans, souvent plusieurs fois, à visage découvert. Ils ne sont pas liés entre eux par des liens particuliers. Ils sont venus le faire sous serment à Paris. D'accord ? Et c'est de ça que veut parler, en fait, Philippe Collin, quand il dit « il n'y a pas de preuves ». C'est ce que disent aussi, par exemple, des gens comme Pierre Péan et Philippe Cohen dans une biographie de Jean-Marie Le Pen, qui écrivent un chapitre pour nous dire que tous ces témoins-là, c'est du pipi de chat, comme disait Jean-Marie Le Pen. Hein, il disait « ça ne vaut pas un pet de lapin ». En fait, ce qu'on leur reproche, c'est d'être algériens. L'argument, par exemple, c'est de dire « ah mais ils ont mis bien du temps avant de parler ». Mais ils ont juste mis le temps qu'il a fallu pour que des journalistes français, dans les années 80, s'intéressent brusquement à ce qui leur était arrivé parce que ça concernait Jean-Marie Le Pen, qui devenait un personnage de premier plan. Avant, personne n'était jamais allé les interroger. Et Florence Baugé ou Lionel Duroy m'ont dit, mais dans la Casbah d'Alger, quand on est arrivé dans les années 80, Lionel Duroy, il s'est aperçu que tout le monde savait ça. Hein, et tout le monde avait entendu parler, j'ai oublié de finir mon histoire des moulets, du fameux poignard de Jean-Marie Le Pen, qui trônait sur le buffet dans le salon de la famille Moulet depuis 1957. Alors ce poignard, il est connu, hein, vous l'avez en photo sur Internet, partout, on le sort souvent pour... comme symbole du passé tortionnaire de Le Pen. Donc, dans cette fameuse nuit du 2 au 3 mars 1957, Le Pen y perd son ceinturon en toile dans lequel il y avait un fourreau et dans le fourreau, un poignard. Et le gamin de la maison, qui s'appelle Mohamed Moulay, il a 12 ans, il ramasse tout ça, il cache le poignard. Le Pen revient le lendemain, fouille toute la maison, ne trouve pas le poignard, il trouve le ceinturon. Hein. Et ce poignard, il est particulièrement intéressant parce que sur le fourreau est gravé J.M. Le Pen, premier REP. Et c'est un poignard des jeunesses hitlériennes. Alors Le Pen a dit, oh, bah, comment j'aurais un poignard des jeunesses hitlériennes? Ben, en fait, ce qu'il ne veut pas qu'on rappelle, c'est que dans le premier REP, il y avait plusieurs milliers d'anciens Waffen-SS qui avaient été enrôlés, souvent de force, après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, il y avait des dizaines de milliers d'Allemands dans la Légion, et dans le premier REP, il y avait plusieurs milliers d'anciens Waffen-SS. Donc que l'un d'entre eux, et par exemple, hein, alors là on est dans spéculation, mais offert ce poignard à son lieutenant, ça n'aurait absolument rien d'étonnant. Voilà. Bon. Alors, j'en reviens à mes témoins. C'est particulièrement intéressant, parce que, en fait... C'est pas seulement dans l'affaire Le Pen qu'on n'arrive pas en France à accorder du crédit aux Algériens quand il s'agit de la guerre d'indépendance algérienne. C'est vraiment systématique. En tout cas, pas chez les historiens, mais encore que. C'est comme si on faisait encore preuve aujourd'hui d'intelligence avec l'ennemi algérien, quoi, hein, que de prendre en compte... pour les passer à la moulinette de la critique, mais de prendre en compte leur témoignage. C'est assez extraordinaire, ça. Hein, et ça, c'est un tropisme colonial. C'est comme c'est la continuation de l'ambiance coloniale dans laquelle la parole du colonisé ne vaut pas, ne compte pas, hein, ne peut pas être entendue. Et le travail qu'on fait avec Malik Haral sur les disparus, il consiste justement à être capable de faire une autre histoire de la bataille d'Alger, mais aussi de toute la guerre d'indépendance algérienne, que celle que nous ont léguée les militaires français. Parce que si vous allez aujourd'hui sur un site pédagogique de l'éducation nationale, ou sur Wikipédia, ou dans la plupart des manuels scolaires, ou même dans des livres d'histoire très sérieux, ce que vous trouvez sur la bataille d'Alger, c'est exactement le résumé de ce qu'a raconté le général Massu. C'est quand même extraordinaire. Or, ce n'est pas du tout ce qu'ont vécu les Algériens. Hein, et donc, il y a vraiment un énorme travail là pour prendre en compte le point de vue des colonisés, le point de vue des Algériens dans cette histoire-là. Est-ce que ça fait longtemps que je parle? J'ai oublié de regarder ma montre tout à l'heure. Ça fait un moment déjà. Vous en avez peut-être déjà assez. Il fait chaud. Hein, alors, voilà. Bon, donc... ça, c'est une chose. Hein. Donc, comme disait Pierre Vidal-Naquet, ce serait diffamer Jean-Marie Le Pen que de ne pas le traiter de tortionnaire. Hein. Il a dit ça plusieurs fois lors des nombreux procès en diffamation que Le Pen a intenté à partir des années 80, quand c'est devenu trop gênant pour lui. Hein, il s'est mis rapidement à briguer les plus hautes fonctions, y compris la fonction présidentielle. Alors même si pour le noyau dur de son électorat, ce n'était pas du tout un problème d'avoir torturé les Arabes, bien au contraire, hein, c'était même encore aujourd'hui, hein, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui me répondent, il a bien fait, et les crimes du FLN, hein, on est là dans la mise en équivalence, bon, on peut en reparler. Alors, on est en France, on continue, hein, et ça c'est une des façons, c'est la forme que prend le déni du passé colonial, dans ce qu'il a de plus terrible, c'est la mise en équivalence des souffrances. Vous savez, c'est la vision compassionnelle des choses. Et Macron est un spécialiste de ça. Hein, Il a fait son beurre là-dessus pendant pendant ses mandats. Ouais. Voilà. On met en équivalence donc. Alors là, il faut pas parler que de l'Algérie d'ailleurs. Hein, ce qu'une puissance considérable prétendant combattre au nom des droits de l'homme, de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, a accompli comme crime contre l'humanité, parce qu'il y a un grand nombre de faits extrêmement précis étudiés par les historiens qui relèvent incontestablement du crime contre l'humanité. Alors que ce soit par exemple le massacre de milliers d'Algériens dans le nord constantinois en représailles collectives en mai 1945, que ce soit l'utilisation du napalm ou des gaz toxiques dans les grottes, quelque chose qui est très peu connu encore, que ce soit la torture systématique, la disparition forcée, tout ça, en droit international aujourd'hui, c'est qualifié de crime contre l'humanité. Hein ? Bon, voilà. Et sont mis en équivalence ces violences-là avec les violences incontestables qui ont été commises par des gens qui se battaient pour leur indépendance et leur liberté, pour mettre fin à une oppression, et à qui on avait interdit toute autre forme de lutte que celle-là. Hein ? C'est quand même particulièrement important de se rendre compte de ça. Alors, et là, on touche à des... On pourrait faire des parallèles avec des événements contemporains. Hein ? Y a eu des formes d'action extrêmement, d'une violence, notamment à l'égard des civils côté algérien, mais qui sont choquantes, hein, qui relèvent de ce qu'on appelle, alors là, à proprement parler, le terrorisme. Mais ça n'est en aucune manière... L'ampleur des deux phénomènes n'a absolument pas de pardon, je suis un peu fatigué par le train, pas de rapport. Hein, il n'y a pas de rapport. Voilà, on est dans une échelle totalement différente d'un côté et de l'autre. Et donc la mise en équivalence, la théorie des torts partagés, hein, c'est le grand truc, ça. Ah bah ouais, mais bon, et le FLN. Hein, voilà, alors, est-ce que l'Algérie va s'excuser, hein, on entend ça. Alors, ça, vous savez, chez ceux qui pourraient bien avoir la majorité à l'Assemblée nationale bientôt, c'est vraiment la vulgate. Hein, ils partagent tous ça. Ils le disent plus ou moins, mais ils le partagent tous, hein. Je parle dans mon livre notamment d'un type qui fait bien le pont entre les débuts colonialistes du FN et le RN d'aujourd'hui, c'est José González, le doyen de l'Assemblée nationale, qui a fait le discours d'ouverture en 2022, l'année de l'indépendance de l'Algérie. La seule chose qui s'est produite dans les institutions françaises, c'est un discours d'un député Rassemblement national des Bouches-du-Rhône, José González, qui a quitté Oran en 62 et qui s'est fait largement applaudir à l'Assemblée avec un discours de nostalgie de l'Algérie française, larmoyant, comme ils savent bien le faire, qu'il avait préparé soigneusement, là, su après, avec Marine Le Pen, et qui lui a valu les félicitations au téléphone de Jean-Marie, parce qu'ils ont réussi un coup magnifique. Et après, ce type, dans les couloirs, devant les micros, s'est lâché. On lui a dit, mais monsieur, est-ce que l'armée française n'a pas commis quelques crimes ? Ah non, pas du tout, parce qu'ils sont totalement dans le négationnisme pur et simple. Hein. Il vous explique aussi qu'aucun Algérien n'a été tué par la police le 17 octobre 61. C'est quelque chose alors, qui disent un peu plus facilement que le négationnisme de la Shoah, ça sort un peu plus facilement, mais c'est totalement partagé. Quoi, hein. Et donc on risque de voir revenir tout ça en force. Et je vais quand même essayer de m'approcher de la conclusion. Il y a longtemps que j'ai écrit dans le précédent bouquin qu'à mon avis, on est aujourd'hui plus loin de la reconnaissance qu'il faudra quand même bien faire un jour de ce qu'a été le passé colonial de la République française, qu'on ne l'a jamais été, plus loin qu'on ne l'était dans les années 90. Dans les années 80 et 90, il y a eu un mouvement, dans les mouvements antiracistes, dans les mouvements de l'immigration, un mouvement d'exigence de vérité. C'est traduit avec deux abcès de fixation. Il y a eu le 17 octobre 61, avec le travail de Jean-Luc Enaudi, les manifestations pour la reconnaissance de ce crime d'État. Et l'autre abcès de fixation, ça a été la torture. En l'an 2000, après les révélations qui concernaient pas seulement Le Pen, hein, Le Monde a fait un travail énorme à ce moment-là, notamment par Florence Baugé, il y a eu un appel qu'on a appelé l'appel des 12 pour que la France reconnaissent solennellement le crime de la torture comme prise comme emblème de toutes les exactions, qu'elle fasse cette reconnaissance solennelle, comme Chirac a reconnu solennellement le rôle de Vichy dans la perpétration de la Shoah, comme l'esclavage a été reconnu comme un crime contre l'humanité par la loi Taubira, la demande c'était de faire cette reconnaissance solennelle. Hein ? Il y avait parmi les 12 en question, il y avait Gisèle Halimi, Germaine Tillion, Pierre Vidal-Naquet, Jean-Pierre Vernant, bref. Cet appel a fait un peu de bruit. Il était lancé au bon moment, parce qu'à ce moment-là, à l'Élysée, il y avait Jacques Chirac, et à Matignon, il y avait Lionel Jospin. C'est-à-dire un représentant du courant gaulliste qui a, il faut le rappeler, le général de Gaulle, avant de se résoudre à négocier très tardivement l'indépendance, il a mené les trois années les plus dures de la guerre, hein, les années du plan Châle, les plus meurtrières. Hein, ça, on l'oublie toujours. Bon. Et puis de l'autre, à Matignon, il y avait le représentant du courant socialiste qui, lui, s'est vautré, hein, notamment en 1957, en déclenchant la bataille d'Alger, qui s'est vautré dans la terreur coloniale. Bon. Et c'était l'occasion, là, l'occasion ou jamais, hein, de voir ces deux courants politiques faire un examen de conscience, faire l'inventaire de leur passé. Eh bien, vous savez bien qu'il ne s'est rien passé du tout. C'est même Lionel Jospin qui a tout fait pour enterrer la commission parlementaire que les communistes voulaient... la commission d'enquête parlementaire sur la torture que les communistes voulaient instituer. Hein, et elle est restée lettre morte. Et depuis, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le backlash. C'est-à-dire, il y a eu Sarkozy, il y a eu la loi d'abord qui prétendait rendre obligatoire l'enseignement des aspects positifs de la colonisation. Donc, heureusement, un article a été retiré. Ensuite, il y a eu Sarkozy qui a fait, lui, de la non-repentance, une doctrine d'État. Sarkozy, il a fait campagne là-dessus. Hein ? C'est devenu, et c'est vraiment une réponse à l'exigence portée encore une fois en grande partie par les mouvements antiracistes dans les années 80 et 90. Un backlash, comme il y en a eu à propos du mouvement MeToo, du mouvement féministe aux États-Unis. Il y en a en France aussi d'ailleurs. Hein ? Bon. C'est du même ordre. Et depuis, on est là-dessus. Alors, je passe sur les détails, mais aujourd'hui, quand l'Élysée fait un communiqué à propos des petits gestes symboliques que Macron fait à propos de la guerre d'Algérie, le communiqué commence toujours par « nous ne faisons pas de repentance ». Bon, ça, c'est une foutaise complète. Personne n'a jamais demandé de repentance. Moi, les Algériens, alors, pour parler des Algériens, puisque c'est souvent eux qu'on dit « mais les Algériens, ils réclament des excuses ». Les gens avec qui nous parlons, en tout cas, je ne peux pas évidemment parler au nom de tous les Algériens, ils ne demandent pas de repentance, ils demandent la reconnaissance de la vérité. Hein ? Ce qui est bien différent. D'accord ? Voilà. Et voilà. Alors, la situation aujourd'hui, elle est ambivalente, parce qu'on a vu, par exemple, dans les années 2020, pendant le mouvement mondial Black Lives Matter, il y a eu en France, et comme dans toutes les anciennes puissances coloniales du monde, à nouveau un mouvement pour la reconnaissance, hein, des crimes de l'esclavage, des crimes de la colonisation, à travers notamment le mouvement des déboulonneurs de statues. Ça a pris plein de formes. Bon, en France, on est le pays qui a répondu, où l'État a répondu avec le plus de brutalité. Hein, Macron a dit « pas question, allez vous faire voir ». Vous êtes des séparatistes, des islamo-gauchistes, des wokistes, vous voulez casser l'histoire de France, etc. C'est très particulier à la France. Hein. Allez voir, alors c'est pas parfait non plus, mais allez voir en Angleterre, même en Belgique. Hein. En Belgique, il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur les crimes coloniaux. Bon, le rapport n'a pas pu être publié parce qu'il est trop dérangeant. Mais enfin, nous, on est très loin de la commission parlementaire, là. Très, 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 très loin. Hein. Plus loin que jamais. Voilà. Et donc, voilà. Bon. Il y a tout un aspect des choses dont je n'ai pas parlé, mais je commence à être vraiment trop long. C'est quand même que... Oui, c'est là que j'ai perdu le fil tout à l'heure. Jean-Marie Le Pen, quand il rentre de son séjour sanglant à Alger, il capitalise tout de suite, politiquement. Il crée un premier parti politique, dès l'année 57, qui s'appelle le Front National des Combattants. Ce parti a déjà comme emblème la flamme tricolore, qui deviendra l'emblème du Front National en 1972, qui est un symbole emprunté au parti fasciste italien. Et il y a en plus, à ce moment-là, le glaive, qui était le symbole du premier des parachutistes. Bon. Et ce parti-là, il lui permet de recycler toutes sortes de fascistes qui ne pouvaient plus se montrer en France depuis 1945, qui étaient frappés au sceau de l'infamie collaborationniste et antisémite. Hein ? Et tous ces gens-là, ils se refont une santé. Hein, ça leur sert de lessiveuse, la défense de l'Algérie française. Ils peuvent réactiver le nationalisme et le racisme. Hein, sauf que le bouc émissaire, c'est plus principalement le juif, dès les années 70, même si, bien sûr, il y a toujours des messages codés, envoyés, les mauvaises blagues de Le Pen, etc. Ça, c'est destiné au noyau dur, hein, qui est encore là, pour lui faire comprendre qu'on y pense toujours, aux juifs. Hein, mais très vite, le bouc émissaire, c'est l'arabe musulman. Hein, et le Front National, ce qu'il fait, c'est qu'il, dans les années 70, c'est particulièrement clair, il est plein d'anciens pieds noirs ultra, d'anciens militaires. Et ces gens-là, ils poursuivent en France la guerre qu'ils ont perdue en Algérie contre les Arabes musulmans. Hein ? C'est ça l'origine de toute la merde qu'on est en train de nous déverser sur la tête aujourd'hui, le grand remplacement et tout ça. C'est ça. Hein ? Et on est vraiment donc là aux racines du lepénisme qui triomphe aujourd'hui. C'est, le mot est faible. Hein ? Vous avez remarqué qu'avant, on utilisait une expression, c'était la lepénisation des esprits. On dénonçait la lepénisation des esprits. C'est fini. C'est fini parce que là, la pénisation des esprits, elle est arrivée à son maximum. Hein. L'Élysée est lepénisée, la télé est lepénisée. C'est nous, les antiracistes, qui sommes racistes, les antifascistes qui sommes fascistes, etc., etc. Donc, bon, voilà. Bon, voilà, je m'arrête là, pardon.
Merci. Moi, je voudrais compléter avec deux aspects précis de ce phénomène, c'est que, bon, tout à l'heure, j'ai dit on n'écrit pas l'histoire avec une gomme. Effectivement, il y a eu trois grands coups de gomme qui ont été donnés sur la possibilité de travail des historiens et historiennes. C'est d'abord les militaires qui, au temps où ils torturaient à Alger, notamment à Alger, qui ne communiquaient pas, la préfecture de police demandait à avoir connaissance de combien, qui, etc., où étaient arrêtés et détenus, etc. Et les militaires ne communiquaient aucune information. Donc déjà, beaucoup de documents qui manquent. Ensuite, il y a eu des amnisties qui ont été prononcées, qui ont effacé des possibilités de démarches juridiques qui auraient pu apporter des éléments à la mémoire. Et ensuite, maintenant, dernièrement, malgré la promesse qu'il a faite le président Macron d'accéder aux archives, il y a toujours des grandes difficultés à accéder à certaines archives. Donc trois coups de gomme qui empêchent qu'on ait la réalité historique des choses. Deuxième chose aussi qui est importante à dire, c'est que ces officiers français qui ont mis au point cette théorie de la guerre révolutionnaire, une fois passée la guerre d'Algérie, ils sont partis dans d'autres pays pour enseigner, notamment aux États-Unis. On a retrouvé les mêmes méthodes en Irak, par exemple, quand l'armée américaine est pénétrée en Irak. En Amérique du Sud, non. Au Chili, au Brésil, en Argentine, etc. Donc,
il y a un truc qui est particulièrement important, c'est le rôle qu'a joué l'amnistie. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que, vous savez, tous ces crimes dont on a parlé, c'était des crimes aux yeux de la loi française. Et les militaires, ils ont au-dessus de leur tête une épée de Damoclès. C'est que le pouvoir qui, à ce moment-là, les couvre et même les encourage à faire tout ça, il peut changer. Et ils savent très bien que ce n'est pas les politiques qui passeront devant les tribunaux, mais c'est eux. Hein. Et ils exigent et ils obtiennent de De Gaulle que trois jours après la signature des accords d'Évian qui met fin au combat, il y a un décret, un premier décret, qui va être suivi de par plusieurs lois, qui accorde l'impunité judiciaire complète, totale, éternelle, à tous les crimes et délits commis en relation avec les événements d'Algérie, comme on disait à cette époque-là. C'est-à-dire que tout ça, c'est par exemple ce qui explique qu'un Jean-Marie Le Pen ou qu'un Maurice Papon, ou que quelqu'un qui est moins connu, qui s'appelle Maurice Schmitt, qui a été le chef d'état-major de Mitterrand, qui était lui aussi un tortionnaire à Alger à la même époque, que ces gens-là se permettent d'attaquer en diffamation ceux qui les accusent d'avoir été des tortionnaires. Hein. Papon, il a fait, vous savez que Papon, il a même fait condamner le Nouvel Observateur qui avait osé écrire qu'il avait joué un rôle dans la déportation des Juifs de Gironde. Ça, c'était avant d'être lui-même donc, finalement condamné pour complicité de crimes contre l'humanité. Et Le Pen, il a fait des dizaines et des dizaines de procès et il a commencé par les gagner, tous. C'est seulement à la fin des années 90 qu'il a perdu des procès importants. Ces gens-là sont tous morts tranquilles. Jamais les faits en question ne peuvent plus jamais leur être reprochés. Et quand on pense au rôle pédagogique qu'ont eu les procès Barbie ou le procès Papon, justement, hein, sur l'opinion publique, hein, c'est à ça que ça sert aussi, la justice. De tels procès à propos de l'époque coloniale et en particulier de l'Algérie n'ont jamais eu lieu et n'auront jamais lieu.
Alors, pour rebondir sur notre actualité très présente, je voudrais signaler deux choses. Première chose, début mars, à Paris, il y a une conférence de presse organisée par des historiens et historiennes et des associations, dont la 4ACG, la Ligue des droits de l'homme, ATTAC, pour demander des comptes à l'État français, sur la pratique de la torture pendant la guerre d'Algérie. Donc, voilà, la balle est dans le camp de l'État français. Et pour l'instant, il n'y a aucune réponse. On sera peut-être amené, chose cocasse, à discuter avec un ministre du Rassemblement national de la torture pendant la guerre d'Algérie. Ça, c'est un truc. Je voulais vous signaler aussi quelque chose qui est passé assez inaperçu. C'est une enquête qui a été faite par Claire Edon, la défenseure des droits, en février, et qui s'est publiée sur Internet. Hein, si vous le cherchez sur le site de la défenseure des droits, en février 2024, il y a une enquête sur les relations entre la police et la population. Il y a eu toute une série de questions qui ont été posées à des gendarmes et à des policiers. Et quand on demande aux policiers, aux gendarmes, qu'est-ce que c'est votre tâche principale, ils disent arrêter les bandits et faire respecter la loi. La question d'après, c'est est-ce que vous considérez que vous pouvez, pour remplir vos fonctions, outrepasser les réglementations et la loi. Et il y a une grosse majorité de policiers qui disent qu'ils peuvent outrepasser la loi, c'est-à-dire devenir hors la loi pour faire respecter la loi, et les gendarmes aussi. Et je pense qu'on se retrouve dans ce cas de figure où la pratique de la torture en Algérie, c'est-à-dire que pour faire respecter la loi, une certaine loi, il y a des gens qui se permettent d'outrepasser la loi.
Oui, et alors j'abonderai dans ton sens, et il faut rappeler une chose, c'est que alors Le Pen, Jean-Marie, a fait constamment l'apologie de la torture. Hein. J'ai oublié de dire qu'il a lui-même, d'ailleurs en 1962, dit « j'ai torturé », une fois qu'il a été à l'abri de poursuites par l'amnistie. Ensuite, il a nié. Mais sa fille, Marine Le Pen, a encore assez récemment dit que la torture était justifiée. Et toujours avec la même argumentation qui a été inventée justement par Massu et ses officiers en 1957, c'est ce qu'on appelle le scénario de la bombe à retardement. Hein. Ça, c'est la fable perverse qui a été inventée par les militaires en réponse aux attaques dont ils étaient l'objet. Hein ? Et le scénario de la bombe à retardement, c'est quoi ? C'est quand on a pris un suspect dont on sait qu'il a déposé une bombe à retardement qui va, dans les heures qui suivent, tuer des innocents, qu'est-ce qu'on fait ? Il ne va pas nous dire, si on lui demande gentiment, où il a mis sa bombe. Alors on le torture. Et c'est pas bien, mais il faut le faire. Alors, il faut dire que ça, c'est une fable, parce que jamais les militaires n'ont été capables de produire un seul exemple où la torture aurait servi à désamorcer une bombe. Jamais. Hein ? C'est totalement fictif. D'accord ? Et c'est pervers, parce que c'est le noyau dur de l'argumentaire des partisans de la torture antiterroriste. Et vous savez bien que c'est repris. Par exemple, quand il y a eu les débats aux États-Unis sur Guantanamo ou Abu Ghraib, c'était autour de ça que ça tournait toujours. Hein, bon, c'est pervers Parce qu'en réalité, tout le monde sait que ces méthodes, elles n'ont aucune utilité policière en réalité, ou alors vraiment extrêmement résiduelle. Hein, parce qu'un torturé, c'est bien pour ça d'ailleurs que si devant un tribunal, vous faites la preuve que vos aveux ont été obtenus par la torture, on vous libère tout de suite. Parce que les aveux sur la torture ne valent rien. Eh bien, les informations données sous la torture ne valent rien non plus. Et donc, elles ne servent à rien. Hein, et sur le plan policier, elles servent à quoi ? À terroriser. Hein. La torture, ce n'est pas un face-à-face simplement entre le tortionnaire et le torturé. C'est à travers le torturé, ce qu'on vise, c'est son entourage, c'est sa famille, c'est son quartier, c'est son peuple qui sait ce qu'il risque de subir comme douleur s'il continue à faire ce qu'on veut qu'il s'arrête de faire. Quoi. Hein, c'est ça. Et ça, c'est particulièrement important. Et Marine Le Pen, je crois que je le cite dans mon bouquin, il y a quelques années, à propos peut-être de Guantanamo ou d'Abu Ghraib ou de je ne sais plus quoi, a dit, mais oui, hein, quand vous avez la bombe qui fait tic-tac, 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 qu'est-ce que vous faites ? Hein, vous torturez. Voilà. Et ça, c'est très, très difficile de combattre cette idée-là. Hein. Elle s'est tellement installée, elle est tellement répandue que voilà.
Pourrez-vous citer aussi le travail de Frantz Fanon ? Je ne sais pas si vous connaissez Frantz Fanon, qui a travaillé beaucoup sur la torture. Et une des conclusions, il n'est pas le seul, hein. Il y a une psychiatre qui s'appelle Françoise Siboni aussi, qui travaille là-dessus, qui dit à quoi ça sert la torture ? Les parachutistes diront à faire parler, ce que vient de nous raconter. Et en fait, ça sert à faire taire les populations, à terroriser les populations, à faire taire les populations. Et je repose la question, qui dans ce cas de figure-là, qui est le terroriste ? Si vous avez des questions.
Bonjour. Oui, donc moi j'ai une question à propos de la loi. Vous avez dit que l'amnistie était éternelle. Donc comment on peut faire une loi qui n'est jamais remise en cause ? Ça c'est quand même un peu étonnant. Et si ce n'est pas possible au niveau national, qu'est-ce qui est possible au niveau international ? Parce qu'il y a quand même des dictateurs qui ont été traités d'injustice, pas dans leur pays, mais au niveau international. Merci.
Alors. Bon, moi, je ne suis pas juriste, hein, mais le décret, la pratique de l'amnistie, c'est une vieille pratique dans la République française, par exemple. Hein. La particularité de cette amnistie-là, c'est que ce n'est pas une amnistie de prisonniers politiques, de victimes de répression, comme la gauche en a souvent réclamé, enfin, je dis la gauche au cours de l'histoire, par exemple, après la Commune de Paris. Hein. Donc, l'amnistie, c'est l'effacement d'une peine. D'accord ? Et l'impossibilité de revenir sur un crime ou un délit en justice. Voilà. Et ça, c'est. Ben, ça existe. Hein. Et donc, c'est effectivement. Alors, évidemment, on pourrait imaginer qu'un gouvernement abroge, je ne sais pas si c'est possible, mais le décret du 23 mars 1962 et toutes les lois qui ont suivi jusqu'à celle de Mitterrand qui amnistiait les criminels de l'OAS en 1982. Mais c'est peu probable. Bon. Alors, il y a une autre voie qui a été tentée déjà, c'est d'essayer de faire poursuivre pour crime contre l'humanité. Sauf que la France s'est prémunie de cette possibilité-là en limitant les cas qui peuvent être poursuivis en France pour des Français aux faits relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Donc après 1945, c'est terminé. Il n'y a plus de crime contre l'humanité. Et surtout pas dans les colonies. Voilà. Alors, y a pas mal de. Il y a des travaux de juristes, hein, je n'ai pas les références en tête, là, c'est longtemps que je ne les ai pas vus, qui ont examiné tout ça, mais les tentatives qui ont été faites n'ont jamais rien donné. Jamais rien donné.
Moi, je voudrais apporter un témoignage. Moi-même, je suis une des dernières victimes de la guerre d'Algérie. Je suis handicapée, je suis en fauteuil. Depuis 62, je ne marche plus. J'étais une toute petite fille. Et je pense que le médecin était de l'OAS. Il m'a enterrée vivante. Il m'a plâtré le corps entièrement. Et il est venu en France. Il est rentré. Et il m'a laissée dans un plâtre. C'était la période très, très difficile. Où il n'y avait plus, il n'y avait pas de médecins, il n'y avait pas de soignants, puisque tout le monde était rentré en France.
C'était où, madame, exactement ?
J'étais à Médéa. Et j'habitais à l'époque un petit village, Berwagia, qui est à 20 kilomètres.
Hein?
Berwagia? Oui.
Il y avait un camp.
La prison, la prison, la prison de Berwagia. Et moi, j'ai des souvenirs de cette époque-là, de la guerre d'Algérie. J'allais à l'école, j'étais petite, j'avais entre 8-10 ans. En allant à l'école, dans les bains morts, les paysans venaient au village, ils passaient la nuit dans les bains morts, pour que le lendemain matin, ils vendent leurs produits. Et le matin, en allant à l'école, je les trouve le long des trottoirs, du trottoir où il y a le bain mort. Ils sont nus, entièrement nus, et tous les militaires ont leur mitraillette braquée sur eux, et ils fouillent leurs affaires à l'intérieur du bain, enfin dans le bain mort. Parce qu'ils ont peur des attentats, ils avaient peur des attentats et des bombes. Et donc, ils fouillaient toutes leurs affaires à l'intérieur. Et eux, ils étaient tout nus. Et je passais devant pour aller à l'école. Et c'est des images insupportables. Des hommes entièrement nus et avec des mitraillettes sur leur dos. Et en parlant des descentes de paras, quand ils venaient dans notre maison, les maisons arabes, on a des cours intérieurs, des patios, et ça se remplissait de paras. Toute la cour est pleine. Et ils sortent, tout le monde en sortait des pièces, des chambres, parce que c'est toujours la nuit, effectivement. Et tout le monde sort de la chambre parce qu'ils ont peur. Et là, il fouille tout, il vide tout, le linge repassé, plié dans les armoires. Il est par terre, il est piétiné par eux. On faisait à l'époque du couscous, des tas de choses qu'on gardait pour l'hiver parce que c'était la montagne, on avait de la neige et on faisait plein de choses l'été pour l'hiver. Et là, il vidait tout, il mélangeait tout, le couscous avec le grain de blé, avec tout était mélangé. Il vidait tous les sacs par terre, il piétinait, il marchait dessus. Et après, ils partaient. Ils emmenaient les hommes, bien sûr, et ils partaient.
Alors, il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé, sur lequel Florence Bosé va sortir quelque chose à la rentrée. C'est la pratique du viol, hein, qui a été extrêmement massive. Alors, du viol des hommes et des femmes. Hein. La torture à la bouteille a été extrêmement répandue. Il y a beaucoup, beaucoup de témoignages qui racontent ça. Il y a même des militaires qui racontent avoir été témoins de cette horreur-là. Et le viol des femmes était répandu au point que, très souvent, on a raconté que dans certains villages, quand les femmes voyaient arriver les militaires, certaines se roulaient dans des excréments, par exemple, de vaches, ou etc., pour qu'ils ne les touchent pas. Hein. C'était vraiment une hantise. Alors, c'est aussi des faits qui ont eu du mal à être racontés. Hein. Il y a une histoire célèbre, c'est celle de Louisette Irilarziz, qui, elle, a osé raconter qu'elle a été violée à répétition par les parachutistes et qui en a subi les conséquences en Algérie parce que c'est quelque chose de particulièrement honteux. Mais il faut pas l'oublier, hein, le viol a été aussi une technique, y compris de terreur militaire.
On peut penser que toutes ces actions ont pour but d'anéantir une population. D'anéantir. Et à ce propos, je voudrais vous citer, faire une toute petite citation d'Aimé Césaire à nouveau, qu'il a écrit dans Discours sur le colonialisme en 1950. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Et je pense que nous en sommes un peu là actuellement. Oui, je peux vous présenter rapidement à 4ACG. 4ACG, les anciens appelés d'Algérie et leurs amis, moi je suis un ami, contre la guerre. En 2004, quand Jacques Chirac, en 1999, avait décrété que c'était une guerre. Auparavant, ce n'était pas une guerre, c'était un maintien de l'ordre, de pacification, etc. C'est devenu une guerre. Donc, qui dit guerre, dit anciens combattants. Donc, en 2004, commence à toucher des anciens combattants, commence à toucher des pensions d'anciens combattants. Dans le Tarn, il y a quatre paysans, j'insiste bien là-dessus, c'est des paysans, avec toute la noblesse du terme, des paysans, qui disent, ce fric, on n'en veut pas, il y a du sang là-dessus, on n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont décidé de garder ce fric et de rentrer en contact avec des associations en Algérie pour et soutenir certaines associations en Algérie. Et depuis, donc c'est parti de ces quatre paysans. Et depuis, on est à peu près 400-420 actuellement. Et on continue sur la lancée qui a été donnée par ces quatre paysans. C'est-à-dire on soutient, je crois, si je me souviens bien, 17 associations financièrement et moralement. Et on va les voir de temps en temps quand c'est possible. Mais c'est de plus en plus difficile. Et peut-être que ça va être encore plus difficile dans les temps qui viennent. 17 associations en Algérie, avec beaucoup d'associations sur les femmes, d'alphabétisation, etc. On soutient 8 associations en Palestine aussi et une association en Syrie, tous sur le même registre, c'est-à-dire des gens qui sont des pacifistes dans l'âme, on va pouvoir dire. Donc voilà, on draine à peu près. Il y a actuellement sur les 400 adhérents adhérentes, il y a une bonne centaine qui versent l'intégralité de leur pension, c'est-à-dire c'est 800 euros par an. Actuellement. Donc on arrive à drainer des sommes assez importantes et à renvoyer essentiellement en Algérie. Sachant que le pouvoir algérien est de plus en plus répressif aussi après le Irak, etc. Donc il y a beaucoup, ils font passer des lois un peu dans le genre de la Russie, c'est-à-dire certaines associations qui sont des agents de l'étranger. Donc il faut être très très prudent pour ne pas mettre les associations algériennes en danger, etc. Donc voilà, c'est le travail essentiel de la 4ACG. On essaie de réfléchir aussi, mais c'est très compliqué sur le problème, la question de la guerre. Qu'est-ce que c'est que la guerre quand, et voilà. Donc on est amené aussi à travailler sur différents registres, dont la torture en Algérie. Certains d'anciens appelés ont vécu des scènes où ils ont été témoins de torture, ils ne s'en sont toujours pas remis.
Le terme de guerre à propos de ce qui s'est passé, c'est bon, il est. Alors, c'est mieux de parler de guerre d'Algérie que de parler des événements d'Algérie, mais la guerre d'Algérie, c'est pas comme la guerre de 14-18 ou la Deuxième Guerre mondiale, hein. C'est une guerre coloniale. C'est-à-dire, c'est quelque chose de très particulier. Alors, les Algériens de leur côté parlent de, ils parlent jamais de guerre d'Algérie, évidemment, ils parlent de guerre de libération, de révolution, de guerre d'indépendance. Ce que la France a fait, c'est une guerre coloniale pour empêcher une indépendance. Hein. Elle n'en a pas fait qu'une, d'ailleurs. Hein. Donc, voilà, la mise sur le même plan... moi, je suis toujours sidéré. Alors, y a un certain nombre de monuments, vous savez. Il y a peu de choses, en fait. Hein. Y a beaucoup de monuments qui glorifient les conquérants coloniaux, etc. Mais sur les guerres coloniales, il y a très peu de choses. Alors, il se trouve qu'il y a une particularité à Metz. À Toul, j'ai été récemment avec mon copain Alain Ruscio faire une conférence à Toul, où le maire, qui est un ancien socialiste, hein, n'a pas trouvé de problème particulier à ériger une statue de 2,50 m de haut, fabriquée par un sculpteur d'extrême droite, un catholique intégriste, au général Bijard, qui est représenté en costume de para, hein, c'est-à-dire c'est pas le résistant de la France libre, c'est le parachutiste Bijard, c'est-à-dire celui qui enseignait la torture, dont le nom en Algérie est synonyme de terreur. Hein. Vous savez, on parle des crevettes Bijard pour désigner les corps disparus qu'on retrouvait, qui réapparaissaient après avoir été jetés dans l'eau, les pieds coulés dans le béton, dans le ciment. Voilà. Mais sinon, il y a quelques monuments aux morts pour la France en Algérie et pendant ce qu'on appelle pudiquement les combats du Maroc et de la Tunisie. Ils sont morts pour la France comme, comme les morts de la Première Guerre mondiale et les morts de la Seconde Guerre mondiale. Ça demande réflexion quand même. Hein. Ils sont morts pour quelle France ? C'est vraiment très particulier. Alors, il y a un monument comme ça à Paris qui a été fait sous Chirac, tout près de la Tour Eiffel. Puis il y en a un qui est perdu dans les bois, dans le Tarn, que j'ai découvert une fois en vacances, près de Montredon-la-Bessonnier. Il est paumé dans les bois. Il est énorme. C'est un truc, un monument incroyable, mais il est perdu dans les bois. Bon, voilà, pardon. Alors, il y a aussi, dans les municipalités Rassemblement National proches, un grand nombre de stèles, de monuments à la gloire des criminels de l'OAS. Et la capitale de l'Algérie française aujourd'hui, c'est Perpignan, chez Louis Alliot, qui vient encore de donner le nom de Pierre Sergent et d'honorer vraiment publiquement, hein, avec cérémonie et tout le toutim, des cérémonies dans lesquelles on crie encore aujourd'hui « Vive l'Algérie française hein. !» On fait ça chez Ménard à Béziers aussi. Et là, il honore Pierre Sergent, qui était le chef de l'OAS Métropole, qui a essayé de tuer De Gaulle et qui a son actif, qui a été condamné à mort par Égracié et qui est un des fondateurs du Rassemblement du Front National. Hein. Voilà. Alors ça aussi, ça existe. Il y en a à Toulon, il y en a à Aix, il y en a dans pas mal de villes du Sud en particulier, qui sont carrément, alors là, des monuments à la gloire des terroristes. L'OAS, c'est quand même l'organisation terroriste la plus meurtrière de très, très loin de toute l'histoire de France. Hein. C'est des milliers d'assassinats, sans parler des destructions, etc.
Il existait aussi l'apartheid à cette époque-là. Moi, j'étais dans une école arabe. Il y avait deux écoles dans mon village. L'école, c'était un CET pour les Arabes et une école, c'était le CEG pour les colons, pour les enfants colons. Alors, on avait l'école, le primaire. Moi, j'ai été au primaire jusqu'en CM2. Et après, les filles, j'étais dans une école de filles. Et les filles, après le CM2, on allait en haut, c'était l'école de couture. Donc, c'était un CET. Et l'école des colons, c'était un CEG. Il y avait le primaire en bas. Et après, ils montaient, c'était la sixième jusqu'en troisième, juste avant le collège. Et on n'avait pas le droit de les approcher, on n'avait pas le droit de les toucher. On était les sales arabes et on n'avait pas... Si jamais on s'approchait d'une petite fille colon du village, eh bien, la maman ou le papa, tout de suite, eh bien, il ne faut pas toucher... C'est les sales arabes. Et ça, on a vécu, enfin, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans avec ça, puisque je suis tombée malade à ce moment-là et j'ai été esquintée par un médecin avant son départ pour la France.
Alors, vous prononcez le mot d'apartheid, vous avez raison, il y avait un apartheid de fait. Alors, en fait, jusqu'en 45 ou 46, il y a le code de l'indigénat. Hein. Alors là, on est dans une loi raciste hein, qui... où l'infériorité dans tous les domaines du colonisé est légale. Bon. Ensuite, on abroge le code de l'indigénat et on crée un truc où il y a la population européenne, donc il y a exactement les droits des Français de métropole, et puis ceux qu'on appelle les musulmans, qui relèvent du droit musulman, même s'ils se convertissent au christianisme. Et il y a des documents dans lesquels on qualifie des convertis de musulmans chrétiens. Et demandez-vous d'où vient l'essentialisation des musulmans. C'est aussi quelque chose qui a été construit dans l'imaginaire, essentiellement à l'époque coloniale. Hein. C'est une race, en réalité, musulman. Bon. Moi, je travaille en ce moment un petit peu, là, je travaillais dans le train sur le recensement à Alger en 1954, la ville d'Alger, c'est une ville totalement ségrégée, à la fois socialement et racialement. Hein. Il y a des quartiers européens et des quartiers arabes. les quartiers arabes étant, alors le plus connu, et pour certains, ça, c'est comme si c'était le seul, c'est la Casbah. En réalité, il n'y avait que 25% des musulmans qui vivaient dans la Casbah. Hein. Tous les autres, ils étaient essentiellement dans des bidonvilles. Hein. Des bidonvilles qui s'étaient installés dans des zones non bâties, un petit peu partout dans la ville. Il y en avait des grandes, il y en avait des petits. Et les récits des gens de cette époque-là montrent bien que, bien sûr, aucune loi n'interdisait, c'était pas comme en Afrique du Sud, aucune loi n'interdisait aux Algériens de traverser les quartiers européens. Ils le faisaient, mais ils le faisaient pour aller travailler. Ils le faisaient pas pour aller se balader tranquillement. Hein. Et inversement, jamais, presque aucun Européen n'entrait dans les bidonvilles. Hein. Avec quelques exceptions, par exemple, les gens qui ont travaillé dans les centres sociaux créés par Germaine Tillion, comme... Nelly Forget, qui elle a payé ça d'une semaine de torture à la Villa Cesini, parce qu'un jour le général Massu a décidé qu'il fallait aussi s'en prendre. Parce que j'ai parlé des torturés algériens, mais il faut parler des torturés communistes européens, de Maurice Audin par exemple, mais aussi des chrétiens, ce qu'on appelait les chrétiens progressistes. Et un jour le général Massu s'est aperçu que ces gens qui allaient enseigner ou soigner dans les bidonvilles, comme la jeune Nelly Forget qui avait 25 ans à l'époque, étaient aussi des complices des terroristes. Et qu'il fallait s'occuper de leur cas. Et Nelly Forget, à 25 ans, elle était la seule à vivre dans une cité musulmane. On lui avait dit « Oh là là, t'es folle, tu vas te faire égorger ». Bon, ça s'est très bien passé pour elle, jusqu'au moment où, une nuit, les paras, les copains de Le Pen du premier REP, sont rentrés par les fenêtres et par la porte chez elle, et l'ont embarqué parce qu'ils avaient trouvé une machine à écrire, dont ils étaient sûrs que c'était destiné au FLN, alors que c'était une machine à écrire destinée à l'école du bidonville. Et elle a été torturée pendant une semaine à la Villa Cesini, notamment par Feldmayer, l'ancien SS qui était le maître d'œuvre des tortures là-dedans. Et ensuite, alors elle était européenne, et donc les Européens, vous savez, le seul Européen que les parents ont, ont commis l'erreur de tuer, c'est Maurice Audin. Tous les autres, on a pu les torturer, mais par exemple Nelly Forget, après, elle a eu droit. Alors elle était détenue clandestinement à la Villa Cesini, puis après, toujours clandestinement, on l'a mis dans une villa qui était destinée à retaper. Qui était destinée à la convalescence des femmes torturées, la Villa Mireille, pour pouvoir la présenter à un juge. Alors, vous savez, les juges d'Alger, ils n'étaient pas très regardants. Hein. Vous pouviez arriver avec des marques d'électrodes sur les oreilles brûlées. Ça ne les impressionnait pas. Mais quand même, il fallait quand même être à peu près tenir debout. Donc, on retapait, elle est restée 15 jours ou un mois avec plein d'autres femmes qui avaient été torturées. Et elle, on l'a présentée à un juge. Les Algériens, on ne les présentait à des juges que très exceptionnellement. Les Européens, oui. Et on a beaucoup de plaintes déposées par des communistes ou des chrétiens européens d'Alger qui racontent les tortures qu'ils ont subies. Mais eux, on ne les tuait pas parce que ça pouvait provoquer un scandale. Parce que leur famille, elle pouvait, comme l'a fait Josette Audin, émouvoir l'opinion publique, faire du barouf en France. On savait que les musulmans, ils n'y arriveraient jamais. Hein, voilà.
Nelly Forget, qui a été jusqu'à la fin de la vie de Germaine Tillion, sa secrétaire.
Encore une question. Je voudrais venir sur la dimension de la torture. Moi, il y a quelque chose qui m'interroge, c'est comment on peut, quand on est un humain normalement constitué, arriver à torturer des gens. Qu'est-ce qui fait que, outre le conditionnement, moi je veux bien qu'il y ait un conditionnement militaire, mais on est quand même libre de ce qu'on fait, et comment on peut supporter de voir quelqu'un souffrir et de continuer à lui infliger de la torture. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième question qui est un peu liée, c'est comment, même si effectivement il n'y a pas de condamnation possible puisqu'il y a l'amnistie, se fait-il qu'on laisse encore la parole à des gens qui, moralement, sont complètement disqualifiés ? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on arrive encore à parler avec des gens pareils ? D'autant qu'ils n'ont fait aucune... Enfin, ils n'ont absolument rien regretté. Merci.
Pour renforcer ta question, mais je n'ai pas la réponse, hein, pour renforcer ta question, c'est que tous ces événements-là se sont passés au maximum 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que parmi ces bourreaux, il y en avait certains d'entre eux avaient été d'anciens résistants et avaient lutté contre. Beaucoup d'entre eux étaient d'anciens résistants et avaient lutté contre les nazis. Ce qui renforce ta question.
D'abord, l'esprit, le militaire, ça obéit. D'accord ? Ça obéit, y compris la plupart du temps, statistiquement, quand on lui ordonne de faire n'importe quelle saloperie. Mais j'ai abordé un peu la question tout à l'heure. Le général Massue, en mars 57, au moment où éclate en France le scandale de la torture, il mobilise avec Roger Trinquier, qui était un officier idéologue de la guerre révolutionnaire, l'aumônier du régiment, le père Delarue, oui, et ils écrivent, Trinquier et lui, un long sermon pour faire accepter à ces militaires qui, effectivement, sont souvent d'anciens résistants de la France libre, vont souvent à la messe le dimanche, très souvent, le fait de faire des choses qui sont quand même, de toute évidence, assez comparables à celles dont on se souvient de la part de la Gestapo. Et ce texte, il est connu, il est publié, et il leur explique le scénario de la bombe à retardement, et il leur dit « c'est pas si grave, en gros, Dieu est avec vous ». Ça joue. Hein, et ensuite, alors, ça dépendait beaucoup aussi des officiers qui donnaient les ordres. Hein. Il y a des officiers qui ont refusé d'ordonner la torture. Mais d'une façon générale, ceux qu'on mettait dans les trucs de renseignement, ils étaient sélectionnés à l'avance. Et on savait qu'eux, ils craqueraient pas et qu'ils allaient le faire. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'on torture des colonisés. On ne torture pas des semblables. Ah oui, on torture des Arabes ou ailleurs des Noirs. Mais ça, c'est... Vous savez, la torture, elle est consubstantielle à la domination coloniale. Il ne faut pas croire que ça a été inventé par l'armée pendant la guerre. Il y a des rapports qui ont été commandés avant 1954. Il y en a deux qui écrivent noir sur blanc que la torture est routinière dans la police en Algérie. C'est une pratique routinière. Il y a même des exemples qui sont racontés de gens qui torturent régulièrement sans raison pour maintenir la domination. Et il y a un des deux rapports qui propose d'ailleurs, le rapport Vuillaume, qui propose de légaliser certaines formes de torture à la française. Hein ? Donc, la bataille d'Alger, ce n'est pas un début absolu. Hein ? C'est juste un passage à l'échelle industrielle. Mais c'est consubstantiel, parce que la domination coloniale, elle est en grande partie une domination sur le corps et l'esprit du colonisé. Hein ? C'est vraiment tout à fait fondamental. Et on est effectivement dans un pays où on n'est pas considéré comme particulièrement infamant d'avoir commis des crimes dans les colonies. Le Pen s'en est bien porté. On peut élever des monuments à Perpignan, etc. Et on peut dire à la radio, au service public, des énormités. On peut continuer à nier les crimes de l'armée française. Des tas de gens ont fait des carrières... formidable. Et donc, voilà, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de réflexion qui a été faite là-dessus. Encore une fois, à comparer avec ce qui a été fait à propos de la Shoah ou à propos de l'esclavage. Moi, j'ai été prof d'histoire géo pendant longtemps. J'ai vu, après 1995, l'impact du discours de Chirac sur Vichy, sur les programmes scolaires, sur les productions culturelles de toutes sortes. Il y a eu aussi les procès, hein, Papon, Barbie, etc. J'ai vu l'effet de la loi Taubira sur l'esclavage comme crime contre l'humanité, qui a introduit vraiment des études très sérieuses sur ce qu'a été la traite, la vie des esclaves, les révoltes d'esclaves, etc. Aujourd'hui, allez voir un manuel de 5e, je crois, il y a plusieurs pages qui sont très bien faites, etc. Sur la colonisation, il n'y a pas l'équivalent. On étudie la guerre d'Algérie en 3e, par exemple, au collège, si le prof a 2 heures à y consacrer, en fin de programme, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais qu'est-ce qu'on comprend à la guerre d'Algérie, surtout quand on est en troisième, si on n'a pas étudié la colonisation de l'Algérie les 130 ans qui ont précédé ? Rien du tout. Hein ? C'est comme montrer les 3 dernières minutes d'un film qui a duré 3 heures à quelqu'un, lui demander d'y comprendre quelque chose. Voilà. Alors, donc, on vous dit, ah oui, mais bon, si c'est enseigné, mais c'est saucissonné, c'est saupoudré, il n'y a pas de sens donné à tout ça. Et puis, alors, c'est compliqué. On ne demande pas au président de la République de faire l'histoire. Mais il y a une telle, comment dire, un tel désir, un tel besoin, une telle nécessité de dire la vérité, y compris... c'est souvent pris comme un truc communautariste, vous voyez, un truc d'enfants d'immigrés en France ou alors des Algériens de l'autre côté de la Méditerranée. Mais dans une grande partie de la population française... Il y a cette exigence. Hein. Bon, donc on peut exiger ce que fait, par exemple, l'initiative dont tu as parlé, qui est menée d'ailleurs par un éditeur qui est un type extraordinaire, qui est un grand témoin de cette histoire, qui s'appelle Nils Anderson. Alors la torture, c'est l'emblème de tout ça. C'est loin d'être le seul crime. Hein. Alors, à la fin de la guerre, vous avez un quart de la population musulmane d'Algérie qui est enfermée soit dans des camps de concentration, c'est comme ça que ça s'appelle, ceux dans lesquels les militaires enfermaient les suspects, qui n'ont jamais été jugés, qui sont parfois restés de 57 à 62. Hein, on a des exemples avec Malika, on en a interviewé une il n'y a pas longtemps, des gens qui passaient de camp en camp, Bon, ça, c'est des camps comme ça, il y en avait des dizaines et des dizaines. Il y en avait plusieurs autour qui concernaient les Algériens, mais il y en avait autour d'Oran, autour de Constantine, il y en avait partout. Alors ça concerne des dizaines de milliers de personnes. Peut-être sur la durée de la guerre, ça a dû même être de l'ordre des centaines de milliers. Mais il y a tous les paysans qui ont été enfermés dans ce qu'on appelait les camps de regroupement. Parce que, ça c'est sous De Gaulle, on crée des zones interdites, immenses. On vide des régions entières rurales de leurs habitants, qu'on déporte, faut utiliser les mots, on vient avec des camions, dans le meilleur des cas, où ils partent à pied, et on vide des villages, et on ordonne aux gens de vivre dans des zones éloignées, dans des réserves, qui sont souvent pas spécialement fertiles, etc. Et il y a la moitié de la population rurale algérienne qui est enfermée en 1962 dans ces camps de regroupement. Ils ont fait scandale en 1959 quand le stagiaire de l'ENA, Michel Rocard, fait un rapport, fait connaître la situation sanitaire dans ces camps de regroupement. Et on apprend que le taux de mortalité infantile est sidérant. Il y a une jeune femme qui s'appelle Dorothée Myriam Kellou qui a fait un très beau film avec son papa, où elle est retournée dans le village dont ils avaient été chassés, qui s'appelle Amansoura, tu nous as séparés. Je pense pas qu'on puisse le voir librement en ligne, mais c'est vraiment un très beau film là-dessus.
Ce qui explique aussi, une fois l'indépendance de l'Algérie, toutes les difficultés, toute la petite paysannerie a été complètement déstructurée. Donc, des difficultés économiques, alimentaires, etc. Pour celles et ceux que ça intéresse, j'ai une brochure là sur la 4CG, donc vous pouvez, elles sont à libre disposition.
Merci beaucoup pour votre présence. Merci Fabrice, et merci.
Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.